on passe maintenant au vif du sujet de cette émission. Et si vous deveniez vous-même, on va parler hypnose. Donc, toute première question, un petit peu bateau. Qu'est-ce que l'hypnose ?
Alors, qu'est-ce que l'hypnose ? Mais tout d'abord, l'hypnose est un état modifié de conscience entre l'éveil et le sommeil. Quand vous êtes en état d'éveil, eh bien votre conscient est présent, vous avez les yeux ouverts et vous entendez ce que je vous dis. Quand vous êtes dans le sommeil, normalement vous avez les yeux fermés et vous n'entendez plus ce que je dis, ce qui est probablement dommage, mais enfin c'est comme ça. Et pendant ce moment de sommeil, eh bien vous vous reposez et on va dire que plutôt votre inconscient est plus présent. Eh bien en hypnose, on est entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Ça veut dire que vous avez les yeux fermés, votre subconscient est présent, mais vous entendez tout ce que je vous dis.
C'est donc un état un petit peu où on est un petit peu au-dessus de nous-mêmes, j'ai l'impression, on peut utiliser les deux.
C'est un état intermédiaire. On dit parfois qu'il s'agit d'un état de dissociation entre le corps et l'esprit. Effectivement, on peut ressentir à certains moments cet effet. L'important, c'est d'imaginer que, au fond, lorsque le subconscient ou l'inconscient est présent, vous pouvez entendre des suggestions hypnotiques qui vont pouvoir vous aider et travailler sur votre subconscient. Quand vous êtes en état de conscience, c'est votre conscient qui est présent. Je l'appelle d'ailleurs bien souvent le petit tyran. Vous verrez après pourquoi. Et au fond, c'est un état tout à fait naturel. C'est ça qui est important de bien comprendre. L'hypnose est un état tout à fait naturel. Tout le monde connaît l'état hypnotique.
Alors, il y a eu beaucoup de mots, conscient, inconscient, subconscient. Est-ce qu'on peut faire un petit point pour les auditeurs ? À quoi correspond-il ?
On le fera effectivement, si vous voulez bien, un petit peu après, sur la partie conscience-inconscience. Je voudrais juste donner quelques exemples pour l'instant de l'état, au fond, de l'état d'hypnose, pour que vous puissiez bien comprendre qu'au fond, cet état, vous le connaissez parfaitement bien. Un être humain est en moyenne en hypnose toutes les 90 minutes. Donc toutes les 90 minutes, pendant quelques secondes, vous êtes dans un état hypnotique. Au coucher, par exemple, le soir, lorsque vous avez les yeux fermés, vous allez vous endormir, vous êtes dans ce qu'on appelle un état hypnagogique, c'est un état du soir, dans lequel vous pouvez être un petit peu en hypnose. Au lever le matin, quand vous avez encore les yeux fermés, mais que vous êtes déjà éveillé, vous êtes dans un état hypnopompique. C'est l'état du matin. En voiture, quand vous roulez et que tout d'un coup, vous arrivez à destination en vous disant « Tiens, je suis déjà arrivé, c'est curieux, j'y suis déjà. » Eh bien, vous étiez dans un état d'hypnose. En lisant un livre, quand votre imagination se perd, vous étiez dans un état d'hypnose. Ou alors, et je suis certain que vous adorez ça, Cyrielle, quand vous regardez un film d'horreur.
Et qu'on a très peur.
Et que vous avez très peur. Que vous n'osez même pas sortir du divan ni du canapé parce que pour aller chercher un verre d'eau, parce que vous avez trop peur. Eh bien, vous êtes dans un état d'hypnose. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez peur devant un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, votre subconscient a pris le dessus sur votre conscient.
Oui, parce que en fait, on sait très bien que ce sont des acteurs, mais au final, on a quand même très peur et on regarde derrière chaque porte.
Exactement. Si vous étiez en total état de conscience, effectivement, vous considéreriez que la télévision est une petite boîte lumineuse dans laquelle il y a des personnages qui s'agitent, et à la limite, ça vous ferait peut-être rire. Mais là, quand vous avez peur, c'est simplement que votre subconscient a pris le dessus. Et on en parlera justement, et je pourrais répondre à votre question après sur le subconscient. Le subconscient a la naïveté d'un enfant de 6 ans. Et il croit absolument tout ce qu'il perçoit. C'est ça qui est extraordinaire.
Des fois, j'ai l'impression que mon conscient aussi, ça peut arriver.
Vous seriez peut-être encore une enfant de 6 ans, peut-être. On va parler effectivement du subconscient, du conscient et de l'inconscient. Alors déjà le conscient, je vous l'ai dit, je l'appelle un petit peu ce petit tyran. Alors pourquoi petit et tyran, vous allez voir. En fait le conscient c'est un état d'être et de perception dans lequel nous vivons habituellement. C'est notre état classique. C'est un état qui assimile la connaissance et l'expérience, mais qui ne retient que 3 à 5 choses en même temps. plutôt, on va dire plutôt 3 que 5 d'ailleurs.
Ça fait peu.
Ça fait finalement assez peu, mais enfin bon, ça nous permet de manière séquencée de retenir les informations les unes derrière les autres. Après, il y a des processus beaucoup plus complexes qui vont traiter de la mémoire et dont nous parlerons d'ailleurs dans des sujets de neurosciences plus tard, où vous allez voir que la mémoire est un outil extraordinaire. Donc on retient 3 à 5 choses en même temps. Après, le cerveau au niveau du conscient traite l'information et perçoit 2000 à 3000 bits seconde. Alors, les bits par seconde, c'est les unités en fait de traitement d'information que l'on connaît dans l'informatique d'ailleurs. C'est pour ça qu'on utilise cette notion. Alors 2000-3000 bits seconde, c'est un petit ordinateur. Et ça, c'est extraordinaire, c'est que le conscient perçoit en fait 2000 à 3000 bits seconde en traitement, alors que le cerveau, et notamment le subconscient, en traite 140 milliards de bits par seconde.
Il les traite, est-ce qu'il les garde ?
Ah, il les traite et il les garde. Il les garde pour partie dans des mécanismes extrêmement complexes qui sont du domaine effectivement de la mémoire et des émotions. Donc pour revenir au conscient, ce conscient a une particularité, c'est qu'il a la notion du temps. Naturellement, Cyrielle, vous savez ce que s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui, et vous avez quand même une petite idée de ce que vous allez faire demain. Vous avez une notion du temps. Le conscient a aussi une vision très rationnelle, très analytique des choses. Il est utilisé dans toutes les tâches quotidiennes et il adore tout contrôler. Et c'est pour ça que je l'appelle le petit tyran. Petit parce qu'en fait, finalement, il traite assez peu d'informations, il en retient assez peu. Et tyran parce que je le trouve assez tyrannique dans la logique où il veut toujours contrôler, tout savoir, tout maîtriser. Ça permet d'être apaisé. Et donc ce conscient, à côté de celui-ci, se trouve ce qu'on appelle l'inconscient. Et l'inconscient, on va dire qu'il est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le premier inconscient, qui est en fait une partie qui va traiter des processus automatiques de votre corps. Par exemple, tout ce qui va traiter de la respiration, tous les mécanismes automatiques. C'est intéressant pour vous, ça vous évite de devoir réfléchir toutes les X secondes que vous avez besoin de respirer.
Plutôt utile.
Plutôt utile, voilà, votre inconscient pardon, le fait pour vous. Il est irrationnel, bien sûr. Et il est aux ordres du conscient. C'est très intéressant de bien comprendre que l'inconscient, de manière générale, est aux ordres du conscient. Ça veut dire que l'inconscient et le subconscient n'ont pas d'intelligence. Dans le subconscient, qui est la deuxième partie de l'inconscient, il y a toutes les émotions. C'est ce qu'on appelle aussi le système respiratoire de l'âme. C'est le centre de nos émotions, de nos ressentis et de notre intuition.
C'est là que ça devient compliqué.
Là que c'est très très compliqué. En fait, le subconscient est le siège de nos émotions. Le premier élément intéressant par rapport au conscient, c'est qu'il n'a pas de notion du temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui raconte au subconscient, pour lui, tout est autant présent. Si je lui raconte une histoire d'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, il va considérer que c'est maintenant que ça se passe. En plus, tout ce que je lui raconte, il le croit. Il a la naïveté d'un enfant de 6 ans. Et d'ailleurs, une chose intéressante, il ne comprend pas la négation.
Non, c'est vrai.
Non, il ne comprend pas la négation. Il va transformer les choses de manière positive. Il faut qu'il comprenne des choses positives. Donc, quand je m'adresse à lui de manière négative, c'est assez embêtant parce qu'il va transformer ça. Donc, parfois, je peux avoir des petites surprises. Je peux peut-être vous parler de quelque chose qui va vous éclairer sur ce sujet. Imaginons que vous vous installiez dans votre fauteuil, dans un divan, et... Bon, c'est pas un jour de grande forme, vous êtes un petit peu fatigué, vous vous sentez pas très bien. Et vous vous dites à ce moment-là, je ne me sens pas bien, je ne me sens vraiment pas bien du tout, je sais pas ce que j'ai, mais je suis pas en forme. Et bien en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez, vous dites à votre conscient des choses qui traitent de vos émotions, en disant je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Et bien votre subconscient reçoit cette information et dit, tiens, Cyrielle ne se sent pas bien. Cyrielle n'est pas en forme, Cyrielle manque de pêche aujourd'hui. On pourrait attendre du subconscient qu'à ce moment-là, il envoie des émotions positives pour que vous soyez vraiment bien.
Si seulement.
Eh bien, certainement pas. Malheureusement, Cyrielle, certainement pas. Votre subconscient, qui est un serviteur, mais totalement servile, fait ce que le conscient lui demande. Ça veut dire que si mon conscient dit que je ne suis pas en forme, que je ne vais pas bien et que je ne me sens pas bien, eh bien, mon subconscient m'enverra toutes les émotions négatives qu'il convient bien pour que je continue de rester dans cet état.
Il en rajoute une couche.
Eh bien, en fait, il conforte. Comme il n'a pas d'intelligence, il rend au niveau émotionnel ce qu'on lui demande. C'est très important de bien comprendre qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Le subconscient n'a pas cette notion. Il renvoie simplement, comme un serviteur, il renvoie simplement ce que je lui demande.
Si seulement il pouvait, éventuellement, quand on a un petit coup de blues, ramener un petit peu de soleil dans nos émotions, ce serait bien.
Alors, on peut le faire. En fait, c'est assez simple. Si on veut faire ça, au vu de ce que je viens d'expliquer, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous ?
Essayer de penser qu'on se sent bien.
Voilà, exactement. Quel que soit l'état dans lequel je suis, il suffit que je me dise que je vais bien, qu'en fait, finalement, tout va très bien, et que je me mette à penser à un événement dans ma vie où tout s'est très bien passé. Et ça, c'est important. Si, par exemple, on va prendre l'exemple toujours du canapé, parce que je ne sais pas pourquoi je pense au canapé et au divan, mais...
Il voit, mais Cern, il se dit, il a fait trop la fête ce week-end.
Non. Vous avez la chance de la jeunesse avec une peau toujours extraordinaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je vous l'assure. Alors, imaginons que vous soyez dans un canapé, un divan, après avoir déjeuné. Et vous avez envie de faire une petite sieste, un moment où vous avez envie d'être bien. Et vous vous installez dans le canapé, vous dites, voilà, maintenant j'aimerais me sentir bien, j'aimerais être bien et faire une bonne sieste. Votre conscient entend ça, il appelle le subconscient et lui dit, subconscient, Cyrielle voudrait faire une bonne sieste, voudrait se sentir vraiment bien. Le subconscient répond, ah bon, une bonne sieste, mais c'est quoi une bonne sieste ? Le conscient, il dit, je ne sais pas, débrouille-toi. Il veut faire une bonne sieste, il veut faire une bonne sieste, débrouille-toi. Et le subconscient dit, je ne sais pas. Et comme le subconscient ne sait pas, vous restez tranquillement dans votre canapé, les yeux grands ouverts, en vous disant, je veux faire une bonne sieste. Et je veux faire une bonne sieste, et vous n'en faites évidemment pas une du tout. Vous restez les yeux ouverts parce que rien ne se passe. Or pourtant, vous aviez voulu faire une bonne sieste. Bien. Maintenant, on refait exactement la même chose. Vous vous installez dans le divan, et vous vous installez en vous disant « Maintenant, j'aimerais faire une bonne sieste, mais j'aimerais que cette sieste se passe comme il y a 2 ans, quand j'étais sur cette magnifique plage de Copacabana, j'étais couché sur mon transat au bord de la mer. Je venais d'avoir fait un déjeuner magnifique, le soleil caressait ma peau, il faisait magnifique, c'était superbe, et je me sentais merveilleusement bien. Et je voudrais simplement me retrouver maintenant dans cet état. Et là, le conscient amène toutes ces informations au subconscient et le subconscient va voir dans sa bibliothèque et trouve un dossier Copacabana dans lequel il retrouve toutes les émotions qu'il y avait dans Copacabana il y a 2 ans et renvoie instantanément toutes ces bonnes émotions. Et voilà, vous faites une sieste magnifique.
Ramenez-moi un canapé tout de suite, je vais faire le test. Bon, peut-être qu'on se retrouvera que demain matin.
La question de fond, c'est est-ce que vous avez déjà été à Copacabana ?
Ah bon, je vais le faire autrement. Je veux dire, cette belle plage à Corfou, je me suis endormie.
Exactement, c'est parfait. À partir du moment où, en fait, vous parlez à votre subconscient en langage d'émotion et non pas en langage, je dirais, du conscient, hein, tout ce qui est contrôlé, tout ce qui est calculé, etc., le subconscient comprend. Le subconscient comprend, il ne comprend que le langage des émotions.
C'est marrant parce qu'il faut lui envoyer des émotions pour qu'il nous envoie des émotions.
Exactement. Et comme il renvoie ce que je lui demande, il va puiser dans sa bibliothèque ce qu'il convient pour me ramener ça.
Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la profondeur de l'état hypnotique. Donc, on se demande jusqu'où ça peut aller, à quoi ça peut correspondre.
Alors oui, on parle souvent de profondeur d'état hypnotique. Donc l'état hypnotique, je l'ai expliqué, c'est un état entre le conscient et l'état d'inconscience, l'état de sommeil. Et il y a plusieurs échelles de profondeur d'état hypnotique qui existent. Alors l'état hypnotique, on l'appelle aussi la transe hypnotique. Bon, c'est un nom. Ce qui est important de comprendre, c'est que la profondeur de l'état hypnotique est à mettre en regard de l'indication thérapeutique ou de l'utilisation de cet état. Il y a, on va dire, 6 niveaux qui sont assez connus, de l'état le plus léger à l'état le plus profond. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle la catalepsie mineure. Alors, la catalepsie mineure, on la détecte facilement lorsque la personne a les yeux fermés, mais on détecte des mouvements oculaires extrêmement rapides, sous les paupières fermées. Ce sont des mouvements oculaires rapides qu'on appelle des REM aussi. Là, on est dans un état hypnotique extrêmement léger, mais en fait déjà suffisant pour faire pas mal de choses. C'est un état hypnotique. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle la catalepsie majeure. La catalepsie majeure, ce n'est pas une catalepsie des yeux, c'est la catalepsie des membres. C'est qu'à ce moment-là, je peux avoir par exemple un bras qui est plié ou qui est tendu. Et cette catalepsie permet de faire des lévitations du bras. Et ça me permet aussi d'avoir des informations. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une catalepsie du bras, je peux m'en servir en séance pour faire ce qu'on appelle du signaling. Alors le signaling, c'est en fait demander à la personne de réagir physiquement par rapport à quelque chose que je lui dis. Je prends un exemple. En état d'hypnose, je peux dire « Et maintenant, Cyrielle, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est lorsque vous êtes dans l'état hypnotique qu'il vous convient, de me l'indiquer en levant l'index de la main droite. » Et là, vous allez lever votre index si vous êtes effectivement dans cet état hypnotique qui vous convient. C'est ce qu'on appelle le signaling. C'est le contact que j'ai avec vous sans avoir besoin d'avoir une réponse verbale de votre part. Votre corps peut me l'indiquer. Donc niveau 2, catalepsie majeure. Niveau 3, encore un peu plus profond, c'est ce qu'on appelle l'amnésie partielle ou totale. On peut l'utiliser parfois en séance pour pas que la personne oublie définitivement des choses, mais qu'elle oublie lors de son réveil certaines choses pour laisser son subconscient continuer à travailler. L'état niveau 4, c'est un état encore plus profond qu'on va utiliser dans le cas de l'anesthésie ou l'analgésie. Donc l'analgésie, c'est essayer de soulager les douleurs. L'anesthésie, on va l'utiliser plutôt à l'hôpital, car vous le savez probablement, dans les grands hôpitaux en France, on fait de plus en plus d'opérations sans anesthésie classique, mais anesthésie par hypnose.
Je ne savais absolument pas, par contre.
Ah oui, oui. Aujourd'hui, enfin, ça fait très longtemps, en fait, qu'on fait des opérations. On en parlera dans l'histoire, mais la première opération importante qui était faite, elle était faite en 1800 et quelque chose. En 1800 et quelque chose.
C'est dingue, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau. Ah. C'est quelque chose qui vient d'arriver, parce que c'est tout simplement qu'on en... Peut-être qu'on n'en parlait pas avant.
On en a parlé pendant très longtemps. On en a parlé vraiment pendant très longtemps. Et puis, on l'a un petit peu caché, on l'a un petit peu réduit au silence parce que il y avait probablement d'autres besoins au niveau de la médecine, au niveau des médicaments notamment, où on pensait que la chimie allait pouvoir répondre absolument à tout. Donc l'industrie pharmaceutique a fait en sorte que les choses soient un petit peu mises de côté. Et donc en fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années seulement qu'on en reparle, mais l'hypnose est présente depuis très très longtemps. Donc niveau 4, anesthésie, analgésie. Niveau 5, ça c'est très amusant, c'est un niveau encore plus profond où on peut effectivement avoir l'hallucination positive. Alors, l'hallucination positive, c'est quand on va probablement faire voir à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas. Donc par exemple, ici au studio, je vous dis que Michael Jackson est assis à côté de nous. Et si vous êtes dans un état d'hypnose au niveau 5, en hallucination positive, vous allez croire et voir, imaginer une personne qui en fait n'est pas là. Et le niveau 6, qui est le niveau encore plus profond, c'est ce qu'on appelle l'hallucination négative, où là, on va faire disparaître des choses qui existent. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous faire imaginer le studio, mais en fait, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'ordinateur, plus d'écran, plus rien.
Plus de micro, juste des fauteuils.
Juste des fauteuils, exactement, exactement. Et ça, c'est la situation négative, voilà. Donc, ce sont les 6 niveaux de transe hypnotique. Je voudrais juste préciser que la transe et cette profondeur hypnotique n'a rien à voir avec la qualité de l'hypnose. En thérapie, en cabinet, on utilise des niveaux extrêmement légers, du niveau 1 au niveau 4. Bien souvent, niveau 2, niveau 3 sont largement suffisants. On n'a pas besoin de faire des démonstrations, on n'est pas dans l'hypnose spectacle, c'est pas du tout la même chose.
On fait un point maintenant un peu sur l'histoire de l'hypnose. Vous me disiez auparavant que ça date vraiment, c'est assez vieux. J'aimerais bien connaître un petit peu l'histoire.
Alors c'est effectivement très vieux, effectivement. L'hypnose, on a découvert des premières traces il y a 4000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, il y avait des descriptions de guérison par des états de conscience modifiés. Donc on en parlait déjà, on a des petites traces de ça. 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, sous Ramsès II, il y avait des textes qui expliquaient en fait le rapport entre le cerveau et l'esprit. Assez intéressant déjà. 2500 ans avant Jésus-Christ, à Rome, dans le temple d'Esculape, et aussi en Grèce, dans le temple du sommeil, on avait déjà des petits traitements qui étaient faits avec l'hypnose. Certains philosophes aussi en ont parlé, Socrate en a parlé dans L'accoucheur d'âme, en 450. Au XVIe siècle, on a commencé, XVIe, XVIIIe et XIXe, on a vraiment commencé à développer pas mal l'hypnose. On a découvert la transhypnotique au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, on a posé vraiment des bases scientifiques à ce moment-là. Donc voilà, la première anesthésie chirurgicale pour l'ablation d'un sein est relatée en 1829. Et c'est intéressant parce qu'on parle de l'ablation du sein en 1829, et aujourd'hui, on peut dire que plusieurs opérations de l'ablation du sein sont faites sous hypnose aujourd'hui. Alors, je ne vois pas vraiment le rapport, mais c'est intéressant de savoir qu'en fait, déjà en 1829, on faisait des ablations du sein avec l'hypnose. On sait que c'est une opération qui est quand même assez lourde. Donc, c'est vrai que l'hypnose permet effectivement à des personnes qui ne peuvent pas subir de sédation par les produits classiques, peuvent être aidées par l'hypnose. Après, effectivement, au 19e siècle, on a la fameuse école de Nancy avec Hippolyte Bernheim. Alors c'est intéressant de savoir, c'est quand même ici à côté, à Nancy, hein, que se trouvait la première école d'hypnose. Et Bernheim qui se posait à Charcot, qui était à Paris, à l'école de la Salpêtrière, et qui travaillait et connaissait l'hypnose, mais considérait que c'était des états assez particuliers qui étaient quand même proches de la psychose, alors qu'en fait, il n'en était rien. Donc Bernheim effectivement définit l'hypnose comme un simple sommeil produit par les suggestions et susceptible d'application thérapeutique. C'est effectivement ce qu'on fait aujourd'hui. Et Charcot évidemment voit l'hypnose plutôt comme un état pathologique, un état d'hystérie. C'était son grand dada Charcot, c'était l'hystérie. Après, il y a eu effectivement différents outils qui ont été utilisés. Pavlov a parlé bien sûr du conditionnement pavlovien et qui sont des outils utilisés. Freud a connu bien sûr l'hypnose, Coué en a connu aussi, Janet a travaillé sur les termes du subconscient, et au XXe siècle, on peut dire que Jung a déjà parlé de l'inconscient collectif, et Erikson a créé l'hypnose ericksonienne. Ça a commencé à cet endroit-là, où en fait, vous voyez que c'est un renouveau.
Et on arrive donc à présent au sujet que beaucoup de personnes se posent, hypnose de spectacle, mesmer. Ça n'a pas l'air d'être du tout ce que vous proposez à vos patients. Vous êtes donc hypnothérapeute. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Et donc, éventuellement, nous dire quelles sont les grandes différences qu'il y a avec ce que Mesmer, par exemple, peut proposer.
D'accord. Alors, effectivement, Cyrielle, il y a un monde de différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, qui est pratiquée par un hypnothérapeute, est une thérapie, comme son nom l'indique, qui va utiliser un outil, qui est l'hypnose. Donc on est dans le cadre de la relation d'aide, on est dans la thérapie, pratiquée par un professionnel qui doit être quand même formé à la relation d'aide, et aussi à l'outil, bien entendu, d'hypnose. Un bon hypnothérapeute, c'est quand même quelqu'un qui a fait plusieurs formations différentes, c'est quelqu'un qui a des spécialités pratiquées, qui fait régulièrement des formations complémentaires pour avoir des mises à niveau, c'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter, puisque l'objectif est d'abord d'écouter la personne et de comprendre pourquoi elle est venue, respecter aussi le rythme de la personne qui vient consulter, tout le monde ne peut pas avancer à la même vitesse dans sa thérapie. Et donc le but quand même de l'hypnothérapie, c'est l'aide dans le respect, la bienveillance et l'éthique.
Ce qui n'est pas du tout le cas dans le spectacle, qui est vraiment du domaine du divertissement.
Ce qui est du domaine du divertissement, et c'est vraiment ça qui est une différence, c'est que l'hypnose de spectacle vise à amuser un public avec une hypnose induite très rapidement. Il n'est pas du tout question de faire comme on fait en cabinet, de prendre du temps. Pour pouvoir travailler avec une personne, il faut que rapidement la personne soit sous hypnose pour pouvoir effectivement amuser le public.
Et donc elle n'est pas préparée, c'est bien ça?
La personne n'est pas préparée, elle est ce qu'on appelle calibrée. C'est-à-dire qu'en regardant certaines choses chez la personne, on est capable de voir rapidement si cette personne est hypnotisable plus ou moins rapidement. Comme je l'avais mentionné, tout le monde est hypnotisable puisque c'est un état naturel. La question, c'est est-ce qu'on est hypnotisable plus ou moins rapidement et est-ce qu'on est suggestible plus ou moins rapidement ? C'est-à-dire, est-ce que mon subconscient est plus ou moins rapide pour recevoir des suggestions et pour que j'y réponde ? Ça, c'est l'objectif de l'hypnotiseur de spectacle, c'est d'obtenir une réponse rapide. On peut pas, un spectacle, c'est dynamique, il faut que ça avance. Donc, les personnes sont effectivement consentantes, on est bien d'accord, hein, mais je trouve que les pratiques sont, peuvent parfois être à risque. Effectivement, quand on ne connaît pas une personne et qu'on lui fait faire quelque chose, on peut peut-être lui faire faire des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'elle a vraiment envie de faire.
La personne peut être jusqu'à en être traumatisée ?
Traumatisée, c'est peut-être un grand mot, mais quand même. Prenons un exemple. Si en hypnose de spectacle, je propose à quelqu'un de lui suggérer de devenir une poule, par exemple, et la personne peut devenir une poule. Oui, bah, effectivement, ça, c'est pas une trop grande difficulté en hypnose de spectacle. Seulement, je ne sais pas à ce moment-là si la personne n'est pas phobique des poules. Et si la personne est phobique des poules, eh bien, quelque part, je la remets dans sa propre phobie. Je ne suis pas du tout certain que c'est une bonne manière de faire.
Et donc, est-ce que Mesmer pose la question ? Je ne suis pas sûr. Il ne leur demande pas. Ils ont envie, il n'a pas le temps. Hein.
Non. Alors, Mesmer est un... Alors, replaçons les choses. Mesmer est un grand professionnel. Ce que Mesmer fait est tout à fait réel. C'est effectivement quelqu'un qui utilise, entre autres, de l'hypnose. Il n'utilise pas que de l'hypnose. Il utilise aussi d'autres techniques de communication. Mais, effectivement, il va calibrer les personnes très rapidement pour leur faire faire quelque chose. Et il va le contrôler au mieux. Mais on est quand même très, 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 très loin de la thérapie.
Pour ma toute dernière question de l'émission, ça serait, quelles sont les applications de l'hypnose thérapeutique ? Jusqu'où ça peut aller ?
Confiance en soi, estime de soi, c'est sûr. Le stress et la dépression, c'est évident. La douleur, ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie. L'anesthésie, l'hypnosédation. Donc l'hypnosédation, je rappelle que ça se fait à l'hôpital avec un médecin anesthésiste. L'arrêt du tabac, les troubles du sommeil, les addictions. Par exemple, savoir que l'arrêt du tabac est bien souvent une habitude plus qu'une addiction. Les phobies. La préparation mentale aussi dans le cadre de sportifs qui veulent faire ce qu'on appelle la prévisualisation. Il y a aussi le domaine de la pédohypnose, donc c'est l'hypnose pour les enfants. C'est une spécialité. On peut travailler avec les enfants à partir de l'âge de 3 ans. On peut commencer à faire de l'hypnose avec des enfants. Ça requiert quand même une technique particulière, ça requiert un apprentissage spécifique. Voilà.
On va marquer une pause et puis on se retrouve après pour un petit point de conclusion. On va parler des limites aussi après la petite pause de l'hypnose. Et puis enfin, on va vous dire de quoi on va parler le mois prochain.